Évangile selon Matthieu, chapitre 7, conduite envers autrui.
Versets 1 à 12.
Lecture de la parole.
Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, « Permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil. » Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, heurtez, et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même, car c'est là la loi et les prophètes.
Lecture de l'étude.
Dans le chapitre 6, nous voyons l'exercice de la piété envers Dieu et envers les hommes, et, au commencement du chapitre 7, la conduite à suivre vis-à-vis de nos frères ou de nos semblables. Les versets 1 à 5 nous mettent en garde contre la propension du cœur naturel à juger les autres, à vouloir redresser chez eux surtout ce qui nous déplaît. Dans son gouvernement, Dieu agira envers nous comme nous aurons agi envers les autres. Chapitre 6, versets 14-15. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Tandis que, bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Le plus souvent, lorsque nous voyons des défauts chez nos frères, la paille qui est dans leur œil, c'est que nous sommes peu capables d'en juger, ayant dans les nôtres une poutre, c'est-à-dire un péché, un défaut bien plus grave que celui qui nous offusque chez notre prochain. Examinons-nous à la lumière de Dieu, et là, voyant tout le mal qui est dans notre cœur, nous ne jugerons pas notre frère. Si même nous discernons en lui une paille, nous serons miséricordieux. Combien ces enseignements ont aussi d'à-propos dans nos familles, où les enfants sont facilement portés à s'accuser et à se juger les uns les autres, au lieu de s'occuper chacun de soi-même devant Dieu, lui confessant ses propres fautes pour être délivré du mal et être rendu plus agréable à autrui. Il faut avoir aussi du discernement au sujet des choses saintes, verset 6, pour savoir quand les présenter aux hommes. Il y a des occasions qu'il faut savoir saisir, dit l'apôtre Paul, Colossiens 4, verset 5.
Marcher dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion.
Au verset 7 à 12, le Seigneur revient sur le sujet de la prière, car si, d'un côté, notre Père sait de quoi nous avons besoin, il veut que nous mettions de l'énergie et de la persévérance dans nos requêtes. Cherchez, heurtez, demandez. Le Père vous entend. Précieux encouragement de savoir qu'il répondra à nos demandes. Celui qui dit « Je donnerai » dit aussi « Demandez ». Si l'homme, dont le cœur est méchant, sait donner de bonnes choses à ses enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Cette manière d'agir de notre Père doit trouver son expression en nous, de manière à ce que nous soyons des modèles pour les autres. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. L'apôtre Pierre dit, « Qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ?» 1 Pierre 3, verset 13. Chemin étroit et chemin large, versets 13 et 14.
Lecture de la parole.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
Lecture de l'étude.
À cause du péché et de la volonté de l'homme, ennemi de Dieu, il y a dans ce monde une opposition constante à ce qui est bien, de sorte qu'il faut une énergie continuelle pour entrer dans le chemin de Dieu et accomplir le bien. C'est ce que représente l'effort à faire pour entrer par une porte étroite, tandis que la porte large, qui ouvre sur un chemin spacieux, se franchit sans difficulté. Il n'y a qu'à se laisser aller au courant entraînant de ce monde et au penchant naturel de son propre cœur qui aime ce qui est facile et donne du plaisir. L'homme n'est pas ici-bas pour toujours, comme ce serait arrivé s'il fût resté dans l'innocence. À cause du péché, la naissance place tout homme sur le chemin de la perdition. Grâce à Dieu, son amour a ouvert un autre chemin, celui qui mène à la vie. Mais peu y entrent, parce qu'il n'offre pas au cœur naturel l'aliment qu'il désire, en un mot, le péché qui le conduit à la mort et au jugement. Chers lecteurs, souvenez-vous que tout ce qui attire la chair, tout ce que le monde approuve, ce qui ne demande aucun effort, caractérise le chemin large. Jamais l'entraînement dans ce chemin n'a été si puissant et surtout si subtil que maintenant. On y est entraîné par le luxe, par les études, les lectures, le choix de ses camarades, les exercices corporels de tout genre et tant d'autres choses qui agissent d'autant plus subtilement que plusieurs sont utiles et même nécessaires. Pour en user d'une manière saine et ne pas se laisser entraîner par elle dans le chemin large qui conduit à la perdition, il faut une vigilance qui ne s'obtient qu'en écoutant la parole de Dieu. Tout ce qui sert à nous introduire et à nous maintenir dans le chemin étroit qui mène à la vie est désagréable au cœur naturel et se heurte contre la volonté propre. Écouter et lire la parole et les publications qui en parlent, agir d'après les enseignements divins, obéir à ses parents en tout, renoncer à tant d'attractions offertes à la jeunesse, tout cela coûte des efforts à faire pour entrer par la porte étroite et demeurer dans le chemin resserré qui mène à la vie. Comme Moïse, choisissez plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Hébreux 11, c'est 25-26. Faux prophètes et faux ouvriers, versets 15 à 23.
Lecture de la parole.
Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. »
Lecture de l'étude. Les choses mondaines ne sont pas seules à nous nuire. Il y a aussi des gens qui affectent un certain dédain des choses mondaines et qui ont l'apparence des brebis, c'est-à-dire de ceux qui font partie du troupeau du bon berger et qui ne sont en réalité que des loups ravisseurs qui introduisent de faux enseignements, prétendant parler, comme les faux prophètes d'autrefois, au nom de l'Éternel. On les reconnaîtra à leurs fruits, seul moyen de discerner à quelle espèce un arbre appartient. Malgré leur belle apparence, ils ne produiront rien pour Dieu. Ils seront coupés et jetés au feu. D'autres personnes n'auront que l'apparence de la piété. Elles se réclameront du nom de Christ, aujourd'hui du nom de chrétien, disant à tout propos « Seigneur, Seigneur ». Mais lui leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ces avertissements, toujours à propos, seront tout particulièrement appréciés par le futur résidu juif dans les temps terribles d'épreuves qu'il traversera avant la venue glorieuse de Christ, en vue duquel le Seigneur a prononcé ses discours. Il s'adressait au résidu juif d'alors et demeure écrit pour le résidu à venir. Dans ce temps-là, des méchants s'élèveront du milieu d'eux pour leur nuire. Plusieurs se joindront à eux par des flatteries. Il y en a qui seront entraînés par de douces paroles. Daniel 11, versets 32 à 34. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire si possible même les élus. Matthieu 24, verset 11, 12, 13, 24.
Ces passages font comprendre combien il faudra lutter pour entrer par la porte étroite et se défier des apparences trompeuses de ces loups et faux prophètes dans les temps à venir, où tous ces enseignements trouveront leur application littérale. En attendant, n'oublions pas qu'ils sont écrits pour nous aussi.
Conclusion. C'est 24 à 29.
Lecture de la parole. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.
Lecture de l'étude.
Dans les versets 24 à 29 qui terminent ces discours, le Seigneur montre d'une manière solennelle la différence qu'il y a entre le fait d'écouter ses paroles seulement et celui de les mettre en pratique. Celui qui les met en pratique est semblable à un homme qui a fondé sa maison sur le roc. Les torrents et le vent se sont déchaînés contre cette maison, mais elle est demeurée ferme. Celui qui se contente d'écouter, sans mettre en pratique ce qu'il entend, est comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les torrents et le vent sont venus, ils ont donné contre cette maison, sans plus de violence que contre celle qui est bâtie sur le roc. Mais fondée sur un sol mouvant, elle est tombée, et sa chute a été grande. Au jour de l'épreuve ou du jugement, pour qui que ce soit, tout ce qui se basera sur les pensées et les raisonnements des hommes sera renversé. La ruine sera grande aussi, car elle sera éternelle. Au contraire, tout ce qui reposera sur le roc de la parole de Dieu demeurera éternellement. Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Il n'est pas dit celui qui entend, pas même celui qui dit qu'il croit, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est la seule preuve à donner que l'on a cru. Il importe de saisir que l'on est sauvé par la foi sans œuvre de loi, mais on risque d'oublier que les œuvres qui découlent de la foi sont inséparables du salut et qu'il est inutile de prétendre être sauvé si l'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Luc 8, verset 21, Matthieu 12, verset 50. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, verset 21.
Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Et quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit, « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.
Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme leurs scribes, verset 28-29. Ce sont en effet des paroles d'autorité divine, propres à introduire dans la vie éternelle, qui se font entendre aux oreilles de chacun, de la bouche même d'Emmanuel, Dieu avec nous, venu en grâce pour sauver sa créature perdue. Puissions-nous tous, chers lecteurs, n'être pas des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres, Jacques 1-25.